winds 100 points an hour from the west.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Après un petit congé vendredi dernier, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Nous sommes en direct du 1134 Grande Allée Ouest. Camille avec vous jusqu'à 20h en compagnie. Il est de retour lui aussi de Monsieur Christian Page. On reprend là où on avait laissé, mon cher Christian.
Absolument.
Retour à la thématique des ovnis avec un coup de théâtre et quasiment du drama.
Oui, oui, effectivement, on vit une saga qui sait dans quelques années on pourra appeler ça la grande période, la petite maison dans la prairie, ça sera les ovnis au Pentagone. Donc effectivement, on va parler ce soir d'une espèce de coup de théâtre qui est arrivé il y a quelques jours avec l'annonce de la démission de Sean Kirkpatrick. Sean Kirkpatrick, je te le resitue pour les gens qui sont moins familiers avec le sujet des ovnis. Il faut savoir qu'en 2022, après quelques tentatives plus ou moins bien réussies de la mise en place d'un organisme étatique au sein du département de la Défense pour enquêter sur les ovnis, on y est enfin arrivé. Et cet organisme avait le nom, et il a toujours d'ailleurs le nom, de Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines. Et à ce moment-là, on avait choisi comme responsable un scientifique qui s'appelle Sean Kirkpatrick. C'est un individu qui a une longue carrière militaire. Il a principalement travaillé, là, au moment où il a été transféré à ce bureau, il a accepté de prendre les rênes de ce bureau. Il était attaché au département de l'agence les forces spatiales. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 6 grandes forces, là. Il y a l'Air Force, hein, la force militaire aérienne, l'Army, la force de terre, l'armée de terre. Il y a la Navy, la marine, et il y a les Marines. Hein, souvent, on confond quand on entend parler des Américains ou dans des films, on dit « Ah, c'est un Marines ». Mais les Marines, ce n'est pas c'est pas la US Navy, hein, c'est pas les marins, c'est pas eux autres. Hein, c'est une force d'élite spéciale, les Marines, qui sont dépendants de la US Navy, mais c'est vraiment une force d'élite spéciale, donc les Marines. Et puis, sous l'administration, il y a aussi les Coast Guard, hein, la garde côtière.
Oui.
Et sous l'administration de Donald Trump, on a créé une nouvelle force qui est la force spatiale, parce que bien sûr, non pas force spatiale parce qu'on craint une invasion extraterrestre, mais parce qu'on le sait tous, si éventuellement il devait y avoir un nouveau conflit, ben ce conflit malheureusement se transportera certainement dans l'espace avec on est capable aujourd'hui de satelliser on est capable de satelliser des missiles. On a aussi des missiles qui sont qu'on dit également hypersoniques, donc ils sont capables de voler jusque dans l'espace en basse en orbite basse avant d'entrer sur une cible quelconque. Donc éventuellement là, il va falloir développer des systèmes de détection, mais des systèmes également de réaction qui pourront intervenir lorsqu'on va utiliser ces armes, malheureusement, qui exploiteront l'espace basse pour pouvoir atteindre leurs ennemis. Donc, sous l'administration de Donald Trump, on a créé cette force spatiale. Et ce Sean Kirkpatrick, comme il avait une longue carrière militaire sur la physique des missiles balistiques, ben, il avait été transféré à cette force spatiale. Et il était là depuis plusieurs mois lorsque on lui a proposé de prendre les rênes de ce groupe d'enquête sur les ovnis qui s'appelle, dont l'acronyme est AARO, hein, ARO, comme je l'ai mentionné, qui veut dire en français Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines. Et donc, après 18 mois, ce Sean Kirkpatrick a fait d'ailleurs 2 apparitions lors de dépositions au Congrès. Hein, lorsqu'il a pris le contrôle de cet organisme, il est allé présenter au Congrès quels seraient les objectifs que visait le bureau. Hein, donc, l'identification de ces anomalies aériennes, qu'on appelle plus maintenant des ovnis, parce que le terme a été énormément stigmatisé avec des idées d'extraterrestres et tout le reste. Donc, on préfère utiliser l'expression UAP, qui veut dire phénomène aérien non identifié. Donc, il a dit, on va essayer de comprendre ce que sont ces phénomènes. Puis il faut quand même le dire également, tout ça était lié à la divulgation quelques années plus tôt, en 2007, par le New York Times, d'une série d'observations dont certaines étaient quand même assez anciennes, dont certaines remontaient à 2004, mais elles ont été publiées qu'en 2017 et par le New York Times qui disait, ben voilà, au cours des dernières années, des membres de la US Navy, des pilotes ont observé des phénomènes aériens mystérieux, ils les ont rapportés à leurs supérieurs, le public n'en a jamais rien su. Alors voilà, on vous révèle ces informations. Et à partir de là, il y a eu un soudain, je dirais, un intérêt nouveau pour la question des ovnis qui, faut le dire, hein, sur le plan gouvernemental aux États-Unis, la question des ovnis avait été réglée depuis 1969. Là, je sais que j'ai l'impression de me répéter, mais c'est important de bien comprendre.
Faut placer la table, c'est parfait.
Ouais, il faut comprendre l'historicité de cette situation-là. Donc, 1969, les Américains avaient mis de l'avant, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, trois projets qui se sont succédés pour enquêter sur les ovnis. Bon, on a tendance souvent à parler d'un seul projet, puis c'est un peu vrai, hein. Ça a été un projet de continuité, même si en cours de route, il a changé de nom. Il s'est d'abord appelé le projet Sign, il est devenu le projet Grudge, ensuite le fameux projet Blue Book, dont on aime beaucoup utiliser l'appellation, justement parce que il y a quelques années, 2 ou 3 ans, on a fait une série à la télé qui a été diffusée ici sur la chaîne Historia, qui s'appelait Projet Blue Book, où on suivait l'enquêteur principal de cette organisation, qui était un astrophysicien de la Northwestern University qui s'appelait le docteur Joseph Aydin Hynek. Donc, on suivait un peu les péripéties. C'était très romancé, il faut quand même le dire, c'était très romancé, mais on suivait un peu les péripéties de ce scientifique qui, visiblement, était continuellement en opposition avec les autorités militaires, ce qui est faux, hein. Dans la réalité, je vais pas être méchant, là, mais disons que le docteur Hynek avait plutôt tendance à prendre son trou, comme on dit, okay. Hein, par chez nous, là. Il était pas aussi vindicatif que ça avec l'armée. Quand l'armée disait, OK, ça suffisait.
On s'estime pas longtemps, hein, avec l'armée.
On s'estime pas trop longtemps. Puis, en même temps aussi, Hynek, contrairement à ce que l'on voit dans la série, hein, c'est un individu qui fait preuve d'une énorme intégrité sur le plan de la science, hein. Mais dans les faits, je dis pas que Hynek était pas intègre, mais Hynek aimait être monsieur soucoupe volante. Tu comprends? Il y avait un peu ce titre-là. Puis il aimait ça, être devant les caméras, puis le titre qu'elle a avec, on le présente. Oh, mesdames et messieurs, le voici, le conseiller de l'armée américaine pour la question des ovnis. Écoute, ça faisait beau là, sur un CV. Là. Le voici, le docteur Joseph Aydin Hynek. Et là, il arrivait sur place. Puis, il aimait ce titre-là. Il aimait les flashs des caméras. Donc, il s'opposait pas trop au département de la défense. Puis, il avait surtout pas envie de perdre son statut. Mais néanmoins, ça restait un grand scientifique d'une grande probité. D'ailleurs, Hynek, on le connaît pour avoir été le conseiller scientifique de l'armée américaine pour la question des ovnis, mais n'eût été de ce travail, il serait quand même passé à l'histoire pour avoir contribué énormément au développement des satellites dans les années 60. C'était vraiment un astrophysicien de très très haut niveau, hein. Donc un homme qui, on peut dire, l'armée américaine a été chanceux d'avoir cet individu qui a travaillé sur la question des ovnis. Et après, en 1969, l'armée américaine s'est retirée de la question des ovnis en tirant les conclusions, trois conclusions qui sont assez dévastatrices. Une était, on a, oui, reçu des observations d'OVNI qu'on n'a pas pu expliquer. D'ailleurs, là, ici, on met immédiatement en échec les amateurs d'OVNI qui continuent de prétendre aujourd'hui que l'armée américaine n'a jamais reconnu l'existence des OVNI. Hein. Dès que tu vois une publicité, un film, un discours, une émission, un truc, un balado sur les OVNI, que les amateurs d'OVNI aiment commencer en disant « l'armée nie l'existence des OVNI », ce qui ne s'est jamais produit.
C'est qu'on ne peut pas l'expliquer, c'est
ça ne s'est jamais produit. Dès la première heure, le département de la défense aux États-Unis a reconnu qu'il y avait des observations pour lesquelles il ne trouvait pas d'explication. Donc, prétendre que l'armée a nié l'existence des ovnis, c'est faux et archi-faux. Par contre, ce qu'elle dit en même temps, d'un même souffle, elle dit on a des observations pour lesquelles on n'a pas trouvé d'explication, mais aucune de ces observations ne permet de croire à des visites extraterrestres. Donc, c'est différent. Tu comprends? Quand les amateurs nous disent l'armée nie l'existence des ovnis, c'est pas vrai. Elle nie pas l'existence des ovnis. Elle nie que les ovnis puissent être d'origine extraterrestre. Ce qui n'est pas pareil. Hein? Il y a une différence entre dire les voitures n'existent pas et de dire il n'y a pas de voiture jaune à petit poids. Hein? C'est pas pareil. Hein?
Ouais.
Il y a une notion ici qui est différente. Donc, l'armée a dit, on a des observations d'ovnis pour lesquelles on n'a pas trouvé d'explication. Deuxième conclusion, oui, il y a ces observations un peu intrigantes, mais rien ne permet de croire que nous sommes visités par des extraterrestres. Et la troisième conclusion était, Il n'y a pas, d'une part, de l'intérêt scientifique à continuer d'enquêter sur ces observations. Il n'y a pas eu de menace à la sécurité nationale. Et comme le travail de l'armée, c'est de protéger le territoire américain, et comme ces objets ou ces apparitions, quelles qu'elles soient, ne semblent pas menacer la sécurité du territoire, on ne voit pas l'intérêt de continuer à maintenir un programme sur ce sujet-là. Et ainsi, le programme s'est arrêté en décembre 1969. Les conclusions ont été publiées janvier 1970. Et depuis, c'était un peu le désert. Et voilà qu'en 2017, avec ces révélations, ça faisait quand même de nombreuses décennies qu'on ne parlait plus d'OVNI au sein de l'establishment là, de la mécanique administrative américaine. Mais là, voilà qu'avec ces publications en 2017 du New York Times qui nous dit « Ah, des pilotes ont vu des OVNI, il y a des trucs intéressants, on a même présenté dans les médias des vidéos. D'ailleurs, on en utilise un, nous, dans la signature de l'émission Radio X-Files, on entend justement un commentaire d'un pilote qui dit « Oh, cette chose va à contresens du vent, etc. Ouais. » C'est un extrait, justement, de l'une de ces fameuses vidéos qui avait été diffusée en 2017 par le New York Times. Et là, il y a eu un soudain regain d'intérêt pour cette question des ovnis. Et c'est dans la foulée de ce regain d'intérêt que le Congrès américain a un peu forcé la main au département de la Défense pour mettre en place un organisme pour revoir à nouveau cette question des ovnis, même si on croyait que le sujet était un peu enterré. Et je te cacherai pas, pour avoir lu, moi, à peu près l'ensemble de toutes les communications qu'il y a eu entre le Congrès et le département de la Défense, je te cacherai pas que le département de la Défense s'est laissé un peu tirer l'oreille. On voit bien qu'au début, il ne voit pas d'intérêt à faire ça.
Okay.
On lui dit, oui,
c'est une commande.
Ouais, le public s'intéresse à ça, puis là, on sent que le département dit, ouais, mais bon, la question des ovnis, si les gens s'intéressent à ça, il faut savoir qu'il y a eu le projet Blue Book, on a tiré des conclusions, le Blue Book est accessible, tous les documents du Blue Book sont accessibles aux archives nationales, et même aujourd'hui, on peut télécharger l'ensemble de tout le contenu du projet Blue Book qui est disponible également sur le web. Donc, l'armée semblait pas très intéressée par s'impliquer à nouveau dans cette histoire-là. Elle était bien prête à faire quelques investigations de manière ponctuelle s'il y avait une observation d'OVNI importante. Hein. OK, si des pilotes voient quelque chose, on va enquêter sur cet incident-là très précis, mais on ne veut pas mettre en place un organisme pour ça. Malheureusement ou heureusement, peu importe où on se situe, malheureusement pour les militaires et heureusement pour le public, on pourrait dire ça quand même. Donc, éventuellement, le Congrès nous a quand même forcé la main en disant, ben, nous, on veut savoir. On veut savoir est-ce que oui ou non, il y a des ovnis, si oui, d'où viennent ces objets-là. Et moi, je te dirais que sur ce plan-là, moi, intéressé par la question, ça fait 47 ans que je m'intéresse au sujet, même si je ne crois pas trop aux visites extraterrestres, je pense que je me classe dans la catégorie des gens qui se disent, ben là, on veut savoir, hein, je veux dire, on est curieux, ces gens-là, que voient-ils, et s'ils voient des objets, vraiment des aéronefs inconnus, d'où viennent-ils, puis s'ils voient pas des aéronefs inconnus, qu'est-ce qui explique ces mésinterprétations, ces erreurs d'interprétation dans le discours, comment peuvent-ils en arriver à croire, par exemple, qu'un ballon sonde, s'ils n'ont vu qu'un ballon sonde, comment peuvent-ils croire qu'un ballon sonde pouvait être un objet lumineux qui voyageait à 800 km à l'heure à contresens? Tu sais, je veux dire, on se dit, bon, il y a eu des erreurs, s'il y a eu des erreurs d'interprétation, où se situe cette erreur-là? Est-ce qu'elle est dans l'observation, hein? Donc, c'est l'interprétation visuelle du pilote? Est-ce que c'est une erreur dans les données qui sont colligées par les systèmes de détection? Ou est-ce que c'est vraiment la présence d'aéronefs qui semblent échapper à toute explication? Donc, oui, moi, comme n'importe qui, je voulais savoir et j'ai plutôt applaudi cette initiative de mettre de l'avant un programme d'enquête sur les ovnis. Et donc, il y a eu quelques tentatives. Au début, ça a été le UAP Task Force de la US Navy, un petit bureau qui devait colliger des informations. Après ça, ça a été le bureau d'enquête sur les UAP du département de la Défense. Et puis, éventuellement, quelque part, là, au printemps de 2022, tous ces organismes, ces petits organismes, ces petits bureaux qui étaient un peu éclectiques, se sont réunis pour former l'organisme qu'on connaît aujourd'hui, qui est le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines. Et pourquoi dans tous les domaines, pas simplement aérien? Parce que dans certaines observations, des pilotes ou des témoins ont rapporté avoir observé des phénomènes qui semblaient être marins. Donc on a vu des vagues ou on a vu une espèce de bouillonnement à la surface de l'eau qui pourrait laisser supposer qu'il y avait un sous-marin ou un véhicule en dessous. Donc on s'est dit, on va s'intéresser également à ces observations. On se limitera pas essentiellement à des observations aériennes. Et donc, on choisit ce Sean Kirkpatrick, qui est un excellent choix. Hein. Et là, ben évidemment, J'ai un parti pris parce que j'aime beaucoup Sean Kirkpatrick et je sais qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent qui, eux, ne sont pas de mon avis et je respecte ça.
Okay.
Je vais essayer de faire preuve d'objectivité. Hein. Je vais essayer de te dire, ben voilà où ça se passe, puis qu'est-ce qu'on peut reprocher, puis qu'est-ce qu'on reproche pas. Puis je vais essayer de faire preuve d'objectivité en sachant que l'objectivité à 100% n'existe pas. Et je le dis d'emblée, je suis un individu qui est très partisan de Sean Kirkpatrick. J'aime la façon dont il a abordé le sujet.
Est-ce que c'est la personne qui cause de la polarisation? Ou c'est le sujet rendu là?
C'est le sujet.
Et ouais,
je vais te donner mon opinion, hein, parce que tu vas comprendre ce qui se passe. Et Sean Kirkpatrick, comme c'est un militaire, hein, il est un homme de peu de mots. Donc, il a simplement dit, ben voilà, je vais démissionner à partir du mois de décembre 2023.
Ben, on a l'extrait. J'attendais qu'on introduise le sujet. Veux-tu qu'on la fasse jouer tout de suite?
Oui, en fait, ce qu'on va entendre, c'est justement Sean Kirkpatrick qui a pris la dernière fois où il a pris parole devant le Congrès américain, où il établissait quels étaient les objectifs qui étaient visés. Puis c'est important d'écouter ça parce que je vais revenir sur ces fameux objectifs qui sont, quelque part, l'une des raisons pour lesquelles Sean Kirkpatrick a annoncé sa démission. On écoute.
Dr. Kirkpatrick, you can give your testimony.
Thank you, Chairwoman Gillibrand, Ranking Member Ernst, distinguished members of the subcommittee. It's a privilege to be here today to testify on the defense's efforts to address unidentified anomalous phenomena. First, I want to thank Congress for its extensive and continued partnership as the Department works to better understand and respond to UAP in an effort to minimize technical and intelligence surprise. Unidentified objects in any domain pose potential risks to safety and security, particularly from military personnel and capabilities. Congress and DOD agree that UAP cannot remain unexamined or unaddressed. We are grateful for sustained congressional engagement on this issue, which paved the way for the DOD's establishment of the all-domain.
OK. Donc, ça, c'était son introduction.
Donc, c'était une introduction. Comme il dit, les ovnis, c'est sérieux. On doit essayer de répondre à ces questions-là. On sent bien que dans son discours, il ne parle pas de petits hommes verts puis d'extraterrestres. Il parle d'une façon très posée de l'objectif. Et donc, il annonce, après 18 mois seulement en place, il annonce qu'il se retire de ce programme de LARO. Et lorsqu'on lui a demandé, mais pourquoi? Comme je l'ai mentionné, c'est un homme de peu de mots. Donc, il s'est contenté de dire que, en ce qui le concerne, lorsqu'il a accepté ce poste, il avait l'intention de mettre en place un organisme étatique qui soit efficace et transparent. Il dit, je pense avoir fait ce travail-là. Donc, effectivement, le ARO semble assez bien fonctionner. Il a mis en place des mécanismes qui permettent de colliger les rapports d'observation qui sont faits par les militaires. Cet organisme-là semble assez efficace. Il a fait du bon travail jusqu'à maintenant. Et là, quand je dis du bon travail, de mon point de vue à moi, il a fait même plus que du bon travail. Il a fait même de l'excellent travail. Et il a mis en place également un site internet où les gens peuvent suivre les évolutions des rapports qui sont colligés, les rapports qui sont étudiés avec des possibles conclusions quand des conclusions puissent être apportées. Donc ça, c'était un des objectifs de Sean Kirkpatrick et il croit avoir rempli ce mandat à ce niveau-là. Son idée était également de coordonner les efforts parce que souvent, quand on connaît pas bien l'État, on a tendance à dire c'est le gouvernement ou c'est l'armée, mais il faut savoir que le gouvernement, ça n'existe pas sur le gouvernement. Le gouvernement, c'est des centaines de bureaux, de départements qui forment un tout. Tu comprends-tu? C'est pas, il y a pas une entité qui est le gouvernement. Tu sais, c'est plus complexe que ça. Et c'est un peu la même chose quand on va dire l'armée ou les fonctionnaires. C'est bien des choses en même temps, ça. Et l'idée, quand Sean Kirkpatrick a pris le pouvoir, il s'est dit, ben, je vais essayer d'organiser, d'avoir un organisme transparent. Mais quand il dit un organisme, il faut sous-entendre des organismes. Parce que évidemment, ce qui vole n'est pas essentiellement sous le contrôle des militaires, hein. On a l'aviation civile, on a le ministère des Transports, il y a plein d'organismes aux États-Unis qui peuvent intervenir lorsqu'il est question d'objets qu'on va retrouver dans le ciel. Donc, son idée à Kirkpatrick, c'était de créer un organisme qui pourrait en même temps travailler conjointement avec des services civils, pas seulement militaires. Donc, il y a le département de la Défense qui collige de l'information sur le plan militaire. Et on a également des services civils, comme l'aviation civile, par exemple, qui reçoit des observations par des pilotes qui peuvent observer de temps à autre des anomalies aériennes qu'ils vont signaler. Et même dans certains cas, on peut passer à l'étape suivante, donc on a ce qu'on appelle en anglais un air miss, qui veut dire une quasi-collision, où là, des pilotes vont signaler à la direction de l'aviation civile des menaces qu'ils ont perçues de la part d'un aéronef non identifié qui les a parfois obligés de faire des manœuvres, comme ça a été le cas, par exemple, il y a à peu près une semaine, on a dû retarder deux atterrissages d'avions à Heathrow, en Angleterre, parce qu'il y avait apparemment la présence d'aéronefs inconnus.
Ah, vraiment, OK.
Les amateurs d'OVNI sautent vite là-dessus, on dit des extraterrestres. Non, des aéronefs inconnus, on n'a pas plus de détails que ça, mais un aéronef inconnu, quand on sait le nombre d'utilisations de drones que l'on fait, il faut quand même se rappeler, il y a déjà 2 ou 3 ans, la circulation aérienne près de l'aéroport d'Heathrow avait été aussi retardée et menacée par la présence de drones qui étaient utilisés de manière clandestine par des gens qui faisaient voler leurs drones près de l'aéroport. Donc évidemment, ça peut représenter un danger. Hein. Tu comprends qu'un avion qui se pose, qui vole au-dessus de l'aéroport à 300 ou 400 km à l'heure, puis il entre en contact avec en plein pare-brise, un drone qui pèse plusieurs dizaines de kilos, là, qui lui vole aussi à quelques dizaines ou centaines de kilomètres, ben écoute, tu fais une méchante surprise. Là. Donc, il y a des dangers. Donc, on a fait ça. Donc, c'était l'idée de Kirkpatrick, donc, de créer ces vases communicants entre les différents organismes, ce qu'il prétend avoir fait avec à la fois l'aviation civile, mais on l'a vu aussi, on en a parlé ensemble, la NASA, il a même réussi à intéresser la NASA à se positionner sur cette question des ovnis. NASA qui n'avait jamais rien fait sur le sujet, là. La NASA a souvent été critiquée, elle a souvent été pointée du doigt par les amateurs d'ovnis comme faisant partie d'un rouage complotiste, les astronautes ont vu des aliens, puis tout ce que tu voudras. Mais de son côté, la NASA s'est toujours tenue loin de ce débat-là. Mais avec l'avènement de cette nouvelle organisation, le ARRW, et l'insistance de Sean Kirkpatrick, il a réussi à intéresser la NASA à prendre position également pour la question des ovnis. Et la NASA, à 2 reprises, ils ont fait des présentations publiques, dont une il y a quelques semaines à peine, dans lesquelles ils expliquaient, selon eux, après une année à cogiter sur les rapports qui leur avaient été soumis, de quelle manière ils pourraient améliorer les mécanismes d'investigation qui étaient proposés par le département de la Défense. Donc ça, il a fait ça, et il a mis également, comme je l'ai mentionné, un mécanisme en place pour que les gens... Parce que la grande question des ovnis, on l'a bien compris, c'est la peur d'être stigmatisé. Hein? Depuis le début, dès qu'on a commencé à parler de cette histoire d'ovnis, on s'est dit, il faut absolument déstigmatiser le sujet. Parce qu'il y a quelques années à peine, si quelqu'un rapportait avoir vu un ovni, et en particulier un pilote, ben évidemment, il y avait toujours la peur que ça fasse une tâche dans son dossier militaire. Hein? Ouais, c'est un pilote d'F-18, mais il paraît qu'il y a 2-3 ans, il y avait une soucoupe volante. Tu comprends, oh, c'est pas bon ça dans ton dossier là. Ouais, des soucoupes volantes, c'est pas bon. Fait que il fallait absolument déstigmatiser le sujet parce que plein de pilotes avaient observé des phénomènes qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, que ces phénomènes étaient justifiés ou non, que ça a été simplement des erreurs d'interprétation ou la présence de véritables aéronefs non identifiés, ça n'a pas d'importance. Mais ces gens-là ont gardé l'information pour eux de peur justement d'être ridiculisés par leurs collègues et voire même leurs supérieurs. Sean Kirkpatrick a mis en place un mécanisme qui permet à ces gens-là donc de communiquer leur observation et avec toute la solidarité et l'appui de leurs supérieurs pour les inviter à témoigner sans avoir à craindre justement des représailles, voire même le colibet, hein, de pas être ridiculisé par des collègues. Donc ça aussi, il croit avoir bien réussi là-dessus et il a mis en place ce fameux site web qui est maintenant accessible depuis quelques mois. Et c'est sur la foi de ça que Sean Kirkpatrick a dit, ben voilà, maintenant je crois avoir rempli mon mandat et j'ai décidé de me retirer de la question des ovnis, même si ça fait seulement que 18 mois qu'il est en poste. Il dit, mes objectifs étaient ceux-là et ces objectifs-là ont été atteints et voilà, je me retire. Donc okay. À partir de là, tu dis, bon, ok, c'est justifié, c'est honorable, c'est quand même un militaire, hein, qui ça fait quand même 27 ans qu'il est il a été dans les services de renseignement et qu'il est également au sein du département de la Défense. Donc, c'est un cumulatif de 27 années. C'est quand même une bonne carrière militaire. Quand on a, dans n'importe quel grand service public, qu'on soit un policier, qu'on soit un pompier ou qu'on soit un militaire, quand ça fait 27 ans que t'es dans ton, que t'offres tes services, c'est quand même une bonne carrière. Donc, Sean Kirkpatrick a décidé de se retirer, puis c'est tout à fait louable. Et à partir de là, évidemment, on peut se limiter et se contenter des explications qu'il a données en disant, ben voilà, c'est ses explications. Mais évidemment, dans l'univers des ovnis, rien n'est jamais aussi simple que ça. Dès que Sean Kirkpatrick a annoncé sa démission, ben inutile de dire que certains ont été un peu déçus de se dire, ben voilà, ça fait 18 mois qu'il est en poste, il quitte, c'est dommage, parce que jusqu'à maintenant, on avait l'impression que l'affaire était rondement menée. Et d'un autre côté, il y a plein de gens qui ont applaudi le départ de Sean Kirkpatrick, parce que déjà, il était dans le collimateur, si je puis dire, des amateurs d'OVNI, qui ne voyaient en lui qu'un complotiste, qu'un individu qui servait l'État, qui dissimulait de l'information. Bref, finalement, l'individu dont il fallait se débarrasser. Et pourquoi Sean Kirkpatrick avait atteint ce statut-là auprès des amateurs d'OVNI? Et là, je te parle, c'est moi-même. Hein. Je sais que dehors, il y a des gens qui nous écoutent vont peut-être déchirer leur chemise. Là. Mais de mon point de vue, à moi, je pense que les amateurs d'OVNI veulent une investigation sur les OVNI, mais ils veulent une investigation sur les OVNI qui va conclure qu'on est visité par des extraterrestres. Donc, toute investigation qui ne va pas dans ce sens-là est forcément une mauvaise investigation où on nous cache la vérité. Parce que si on nous cache pas la vérité, c'est forcément que les extraterrestres sont là.
Ou le titre de la personne qui porte le projet aussi est important, le diplôme, l'occupation, ouais. Tu sais, si tu es quelqu'un qui est de l'institution gouvernementale ou pas.
C'est ça.
Et rendu là, on va arrêter de gaspiller des milliards, là, puis.
Oui, puis c'est amusant ce que tu dis là, parce que tu vois le double discours. C'est-à-dire que si l'armée dit, hein, et je te donne un exemple, l'armée publie un document en disant les ovnis ne sont pas des véhicules extraterrestres. Les amateurs d'ovnis vont sauter sur ce document-là en disant, ben voilà, ce document-là n'est pas crédible parce qu'il vient de l'armée. Puis l'armée, c'est connu, il nous cache la vérité. Tu comprends?
Ouais.
Et le surlendemain, les mêmes forces militaires publient un document en disant, nous sommes visités par des extraterrestres. Les amateurs d'OVNI vont sauter sur ce document-là en disant, hey, les extraterrestres existent. Regardez, on a un document du gouvernement qui le confirme. Tu comprends-tu? C'est deux poids, deux mesures. Si le document dit blanc, ben, il est pas bon parce que je veux que ça soit noir. Puis si le document dit que c'est noir, c'est qu'il est bon. Donc, finalement, tu dis, qu'est-ce qui fait que toi, comme amateur d'OVNI, tu peux déterminer que ce document-là, il est bon, puis celui-là, il est pas bon? Ben, ta simple motivation, c'est est-ce que ce document-là dit ce que j'ai envie d'entendre?
Ben,
c'est ça, la motivation. Fait que toute enquête qui ne va pas dans ce sens-là, ben, obligatoirement, est qualifiée d'une mauvaise enquête. Et Sean Kirkpatrick, il faut quand même le dire, lors des présentations qu'il a fait à deux reprises, donc la première présentation, on parle ici de 2022, et la présentation qu'il a fait un peu plus tôt cette année, en 2023, dans les deux cas, il a beaucoup insisté sur le fait que malgré la multiplication des observations d'OVNI, ce qui est d'une certaine façon un bon signe que ces systèmes fonctionnent, hein, il y a plus de militaires qui acceptent de témoigner, donc on voit une multiplication de ces rapports d'observation. Donc ce mécanisme de collecte, il fonctionne bien, et ça c'est encourageant pour Sean Kirkpatrick, mais dans les deux cas, il dit, écoutez, même si les observations se multiplient, les observations que l'on reçoit, rien ne permet de croire que nous sommes visités par des extraterrestres. Il le répète, rien ne va dans ce sens-là. Toutes les observations d'OVNI qu'on reçoit à 95%, on peut les expliquer de manière assez prosaïque, avec des phénomènes ballon-sonde, phénomènes atmosphériques, peu importe. Et le nombre d'observations qu'on ne peut pas expliquer, elles sont proportionnelles aux cas les plus mal documentés. Autrement dit, moins on a d'informations, moins on est en mesure de l'expliquer. Et ça fait sens. En soi.
Mais oui, hein, c'est trop flou.
Dit, ouais, c'est le pilote dire, hein, j'ai vu quelque chose une fois dans le ciel. Oui, c'était où? Ben, quelque part, c'est à la côte ouest, là. Quelque part, c'est à la côte ouest, c'est vaste, ça, la côte ouest. C'était quand? Oh, quelque part entre 2006 puis 2009.
Ouais.
Oh, c'est vaste, ça aussi. Tu comprends? Et ces cas-là, même si le pilote raconte son histoire, ben évidemment, il y a peu de chances qu'on puisse l'identifier, puisqu'il y a plein d'éléments qui sont manquants. On n'a pas le lieu précis, on n'a pas la date précise, l'heure précise, on n'a pas le contexte d'observation. Et les amateurs d'OVNI, on dirait qu'ils sont incapables de comprendre ça. Que si t'as pas d'informations, tu peux pas trouver de solution. Et c'est exactement ce que Sean Kirkpatrick dit. Plus le cas est bien documenté, plus on trouve aisément une explication. Et à l'inverse, moins on a d'informations, plus le cas risque de demeurer non identifié. Mais pour les amateurs, le fait que Sean Kirkpatrick semble, et à tout le moins à deux reprises dans ses présentations, semble fermer la porte à des visites extraterrestres, ben, il devient finalement le traître de service. Il ne fait que répéter ce que les méchants militaires répètent depuis des décennies. On n'est pas visité par des extraterrestres, donc forcément, on nous cache la vérité. C'est un faux cul. Donc, peu importe, là, tu t'en sors pas. Et je pense que ça, ça a dû beaucoup jouer sur la décision de Sean Kirkpatrick. Et un autre élément que je crois qui a beaucoup joué sur Sean Kirkpatrick, et ben là, je vois qu'on serait dû pour une petite pause, ma belle Camille. Donc, faisons la pause et je vais t'expliquer après la pause ce qui moi, si j'étais dans les bottines de Sean Kirkpatrick, j'aurais aussi démissionné. Et je vais te dire pourquoi moi j'aurais démissionné. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans la décision de Sean Kirkpatrick.
De retour dans quelques minutes, ici même, sur Radio X.
This is not a test. Radio X Files. Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission Radio X-Files. Merci d'être branché en direct en ce vendredi soir. Et Christian, tu nous expliquais avant la pause que j'ai l'impression, j'ai une idée et une petite hypothèse dans ma tête de ce que tu vas dire sur la démission de Monsieur Kirkpatrick. Ça se peut-tu qu'à un moment donné, à force d'être sous les foudres des commentaires négatifs et des théoriciens du complot, un gars s'écœure?
Je pense que t'as mis le doigt dessus.
T'as mis le doigt.
Il y a deux scénarios. Hein. Si tu navigues sur les sites d'amateurs d'OVNI, hein, qui eux, évidemment, considèrent que Sean Kirkpatrick est vraiment un fou cul, puis il cache la vérité. Ben, il nous ramène continuellement à cet événement. Début de l'été, on en avait parlé ensemble. Ce sont les déclarations de ce David Grush.
Ouais.
Qui témoignait au Congrès américain en disant, on a récupéré des ovnis, on a récupéré des extraterrestres. Ben, il parle pas d'extraterrestres, mais dit des créatures non humaines, parce qu'il dit ils viennent peut-être d'une autre dimension ou d'une autre époque, on sait pas trop, mais bon, bref, on a récupéré des ovnis, on a récupéré des pilotes, et ces objets sont actuellement utilisés dans des centres de recherche pour faire de la rétro-ingénierie. Autrement dit, on déconstruit ces engins exotiques pour voir si on ne peut pas appliquer cette technologie d'outre-espace ou d'autres dimensions, peu importe, sur de la technologie domestique. Et évidemment, ce sont des révélations qui sont tout à fait épouvantables et incroyables. Incroyable, pas épouvantable, mais vraiment incroyable. Et quand on posait la question à David Grush, oui, mais où sont, avez-vous vu ces créatures? Non, je les ai pas vues. Avez-vous vu ces machines? Non, je les ai pas vues. C'est des gens que je connais qui les ont vues, puis des gens en qui j'ai confiance. Ah, ok. Avez-vous vu des photos de ces machines, de ces créatures? Non, j'ai pas vu ça. Finalement, ça va pas très loin. Et c'est toujours, je connais quelqu'un qui... Et quand on posait des questions un peu plus pointues, David Grush disait, ben vous savez, parce que David Grush, entendons-nous, hein, c'est pas un illuminé comme ça, c'est un individu qui a une solide carrière militaire, un individu qui a fait partie des services de renseignement, un individu qui a priori semble très crédible. Donc il raconte ça, et quand on posait des questions plus pointues, David Grush disait, ah ben vous savez, je peux pas vous en parler parce que c'est top secret, je pourrais vous en parler en privé si j'obtenais l'autorisation d'en parler, mais je peux pas. Puis donc il esquivait un peu, hein. C'est assez étrange parce qu'il esquivait parfois des questions de cette manière-là pour des trucs qui étaient un peu simples. Tu sais, quelle est la couleur de vos chaussures? Ah, je peux pas vous le dire parce que c'est top secret. Bon, tu sais, là, tu dis, oh, là, à un moment donné, il faisait intervenir le top secret très souvent pour des questions qui ne nécessitaient pas de se protéger derrière le top secret.
Okay.
Néanmoins, les déclarations de David Grush ont énormément alimenté la presse et immédiatement au lendemain, et là, je pense qu'on est à, c'est là qu'est arrivé le point de bascule. Au lendemain des déclarations de David Grush, qui a insulté, c'est pas, il faut pas se le cacher, il a littéralement insulté Sean Kirkpatrick, il a insulté les gens du groupement Arrow. Entre les lignes, il disait, ces gens-là font un mauvais travail, ces gens-là vous cachent la vérité, ces gens-là nous mentent, ces gens-là, je les ai donné l'information, ils ont décidé de l'ignorer. Donc, il fait passer ces gens-là vraiment pour des pas fins, des méchants. Et donc, dès le lendemain des déclarations de David Grush, Sean Kirkpatrick a tenu sur sa page personnelle, il a publié un long mémoire en disant « Wow, c'est pas vrai ». D'abord, c'est insultant pour tous les gens qui travaillent à l'Arrow, qui essaient de faire un bon travail pour décanter l'information et donner une information qualitative. Ces gens-là travaillent d'arrache-pied pour essayer de trouver des explications. Deuxièmement, ce que M. Grush est allé raconter au Sénat est faux. Il est jamais venu nous voir, on a entendu parler de ses histoires, on lui a fait des invitations, il a décliné nos invitations, les quelques informations qu'il nous a fournies, on les a suivies, tout ça a mené nulle part, et après ça, on lui a demandé de nouvelles auditions, puis il a décliné notre invitation, il nous a envoyé prêtre, hein, pour prêtre, prêtre,
ouais.
T'as bien compris?
Oui, oui. Ouais.
J'allais utiliser un autre terme, là. Bon,
promener.
Ben,
ouais,
voilà. Et donc, c'est un peu... Et évidemment, si t'es un amateur d'OVNI, tu vas croire immédiatement Sean Kirk. Tu vas immédiatement croire David Grosh. C'est ce que tu as envie d'entendre. Tu comprends? C'est ça que t'as envie d'entendre. Que oui, on a des secours, puis oui, on a des petits bonhommes, puis oui, on fait du travail. Et le fait que, immédiatement, on a vu se dessiner un bras de fer entre David Grosh et Sean Kirkpatrick à ce moment-là, ben, on savait que quelqu'un, quelque part, perdrait les plumes. Et là, à ce moment-là, les gens... Les amateurs d'OVNI applaudissent. On porte au nu, finalement, ce David Grosh. Il est l'homme de la situation, l'homme qui a révélé la vraie patente. Mais, dans le fond, il révèle rien. Il a rien apporté. Il dit rien. C'est du grand n'importe quoi. Et donc là, les gens disent, ben là, voilà, finalement, les déclarations de David Grosh ont eu raison de Sean Kirkpatrick. Ça, c'est la version que tu peux lire sur les sites d'amateurs OVNI. Donc, Sean Kirkpatrick a dû, quelque part, en haut lieu, on lui a montré la porte parce que les déclarations de David Grosh ont montré qu'il faisait pas un bon travail. Si c'était vrai, on peut se demander pourquoi immédiatement après l'annonce de la démission de Sean Kirkpatrick, le département de la Défense a annoncé le nouveau directeur. Et le nouveau directeur, il s'appelle Timothy Phillips. Qui est ce Timothy Phillips? C'est un membre du renseignement des forces militaires depuis 2006. Il est spécialisé dans les systèmes de géolocalisation. Il est actuellement le sous-directeur de l'ARRW. Il est le bras droit de Sean Kirkpatrick et depuis le début, il a appuyé à 100% les positions de Sean Kirkpatrick.
Okay.
Donc, si c'était vrai que le département de la Défense souhaitait donner une nouvelle orientation à cet organisme parce que Sean Patrick l'avait mal dirigé, bon, on voit mal pourquoi ils auraient choisi pour le remplacer un individu qui est finalement une copie du docteur Sean Kirkpatrick.
Effectivement.
Bon, on peut se poser cette question-là. Mais tu as raison. Sean Kirkpatrick est un homme de peu de mots, donc lui dit, voilà, moi j'ai l'impression d'avoir fait mon travail, puis je quitte. Mais lorsque tu parles de cette idée de se retrouver sous les feux de la rampe, d'être continuellement l'objet des critiques, là je pense que tu as vraiment mis le doigt sur le bobo. À deux reprises, lors des auditions au Congrès et devant le public de la NASA, organisme civil. Sean Kirkpatrick est un militaire. La NASA est beaucoup plus large, a beaucoup plus de liberté pour parler. Or, lors de ces deux présentations au public, la NASA, pour parler de la question des ovnis, ils ont pris de longues minutes au début de chacune de leurs présentations en disant « Nous n'accepterons plus les menaces, les insultes, les critiques négatives. » Et même dans certains cas, des gens avaient été jusqu'à menacer des membres de la NASA en disant « Chose que tu restes, puis t'es un fou au cul. » Tu sais, tu vois, là, écoute, je te le dis, là, les gens, là, le lobby de la soucoupe volante, t'as les gens qui s'intéressent aux ovnis, mais le lobby de la soucoupe volante, là, ils sont fourrèbes. Ces gens-là, c'est des vrais, vrais hosties de crackpot. Et je pense...
J'aime ton authenticité.
Et cette situation-là, moi, je pense, là, tu sais, moi, là, en 1995, là, j'ai quitté le milieu des ovnis.
Pour à peu près les mêmes raisons.
Pour les mêmes raisons, exact. Ces gens-là sont fous. Ces gens-là, c'est tu es avec moi ou tu es contre moi.
Ouais.
C'est pas vrai. Ces gens-là veulent pas une recherche sérieuse et rigoureuse. Ces gens-là veulent que t'entretiennes leurs croyances. Ces gens-là, c'est des fanatiques. Et on l'a bien vu dans les deux présentations de la NASA, les longues minutes qui ont été consacrées justement pour essayer de tempérer ces espèces de fous, des fous furieux avec des capines en papier d'aluminium, là, pour essayer de les calmer. Dire, hey, calmez-vous, là. Je veux dire, on essaye. Ah! Et je pense que quand t'as fait, comme dans le cas de Sean Kirkpatrick, il a pas évoqué ça. Il a pas dit, ces gens-là sont fourrèdes. Mais quand ça fait, tu l'as bien mentionné, quand ça fait 27 ans que t'as une carrière tout à fait notable dans le milieu militaire, le service des renseignements, t'as-tu envie de finir ta carrière militaire en te faisant insulter par des mangeux d'écureuils qui ont des trucs en papier d'aluminium? La réponse est non.
Non,
pas envie de ça.
Puis la vie, là, dans des hypothèses comme ça scientifiques, la vie ne devrait être que de demi-mesure et de, justement, d'essais-erreurs, là.
Tu sais, alors que ce genre-là, tu vas sur les sites internet, il y a des gens là qui sont vraiment là, virulents là, contre Sean Kirkpatrick. Il a rien fait plus là. Je veux dire, il a dit on n'a pas de preuves qu'on est visité par des extraterrestres. Mais c'est pas, on oublie que le Arrow, c'est pas l'opinion de Sean Kirkpatrick. Lorsqu'il dit ça, ben évidemment c'est le reflet de tous ses collègues, de tous ces gens qui se sont penchés sur ce sujet-là avec lui. Et faut quand même le dire, la NASA, hein, à deux reprises, la NASA a suivi les présentations de l'Arrow et la NASA on tenait exactement le même discours. Hein. C'est oui, il y a des observations d'OVNI pour lesquelles on n'a pas d'explication, mais rien ne permet de croire qu'il s'agit de vaisseaux extraterrestres. Et même la NASA est allée plus loin dans sa dernière présentation il y a quelques semaines, on en avait parlé ensemble. Ils ont dit non seulement il n'y a pas de preuve d'extraterrestres, mais ce que l'on constate, c'est que les pilotes sont des mauvais observateurs. Ils rapportent du grand n'importe quoi parce qu'ils sont comme monsieur et madame tout le monde. Ils sont victimes de biais cognitifs. C'est pas parce que t'es un pilote, si tu sais pas ce que t'observes, que tu sois pilote, que tu sois manœuvre dans une usine ou que tu travailles dans un restaurant de restauration rapide, si tu sais pas ce que t'observes, tous les données que tu vas donner deviennent erronées. Tu sais, tu peux pas déterminer sa vitesse, sa distance ou quoi que ce soit. Tu sais pas ce que c'est de toute façon. Et ensuite de ça, ce que la NASA avait dit et ce qui reflétait également les propos de Sean Kirkpatrick, c'est que les systèmes de détection, on a souvent tendance à croire que parce que ce sont des militaires, les systèmes de détection sont infaillibles.
Ils peuvent faire des défauts.
Et absolument, ce que la NASA a démontré, c'est que contrairement à ce que l'on croit, les systèmes qui sont embarqués à bord des avions ou encore sur des porte-avions ou encore des installations au sol, ces équipements sont conçus pour identifier des aéronefs connus, des avions, des hélicoptères, mais ils sont pas conçus pour détecter des drones, par exemple, avec des déplacements rapides et erratiques. Donc, ils vont donner des informations qui seront complètement erronées à ceux qui se trouvent derrière les écrans. Donc, il faut améliorer les système de détection, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe. Mais le fait que la NASA prenne de longues minutes à chacune de ses présentations pour montrer à quel point les membres de leur organisation étaient intimidés par le lobby de la soucoupe volante, à mon avis, c'est très significatif. Un point tel que la NASA, dans sa dernière présentation, ils ont dit « on a nommé un directeur pour ce bureau d'enquête sur les ovnis au sein de la NASA, mais nous ne révélerons pas son nom ».
C'est rendu loin.
Aujourd'hui, on le sait son nom, mais on n'a pas voulu le rendre public parce que on voulait justement pas qu'il devienne l'objet des attaques omniprésentes de ces amateurs d'OVNI complètement zélés. Et moi, je pense que Sean Kirkpatrick, comme moi je l'ai fait en 95, j'ai dit à un moment donné, ça suffit. Là. Moi, je m'étais embarqué là-dedans, le sujet m'intéressait. Ça me dérangeait pas d'arriver à la conclusion que nous ne sommes pas visités par des extraterrestres. C'est pas ça. C'est nous, ce sont nous les humains qui commettons des erreurs parce que on connaît mal le ciel, puis en même temps nos sens reflètent un peu nos propres croyances. Je voulais savoir, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit extraterrestre, je voulais savoir. Mais malheureusement, ce n'est pas une bonne voie à suivre si vous vous ralliez du côté des amateurs d'OVNI, c'est pas ça. Les amateurs d'OVNI, c'est extraterrestre, ou quand je dis extraterrestre, entendons-nous exotique, là, autre dimension, autre temps, peu importe. D'ailleurs, là, c'est devenu un peu fourré de n'importe quoi. Le même David Grush, là, maintenant, on est rendu à parler de voyageurs du temps. Hein. C'est plus extraterrestres, c'est des voyageurs du temps.
OK. On frôle la secte, hein?
Ouais. Là, écoute, comme le disait si bien Carl Sagan, si le voyage dans le temps était possible, il y a longtemps qu'on aurait été envahi par les hommes du futur. Ça s'est pas produit. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit. Et donc, il est rendu à parler de voyageurs du temps. Je te le dis, ces gens-là, c'est vraiment un monde à part.
Ouais.
Tu as utilisé le mot secte, puis je pense que tu es proche de ça. C'est vraiment des gens là, ils se réunissent. C'est comme les théories du complot. Ils se tapent dans le dos. Ils se racontent des histoires. Chacun d'entre eux se croit la meilleure histoire de son chum. Ils ont l'impression de faire partie d'un groupe élitiste parce que eux savent des choses que les autres ne savent pas. Hein. On est tous des moutons, mais eux connaissent la vérité. Ils ont fait leur recherche. Hein. Et parce qu'ils ont fait leur recherche, ils ont ces certitudes-là. Et ça leur donne le droit d'aller sur les sites, de faire de longs écrits pamphlétaires pour discréditer Sean Kirkpatrick, pour discréditer n'importe qui. J'imagine que même dans la rue, ou même de façon plus personnelle, des gens doivent s'en prendre à eux. Et moi, je n'aurais pas voulu être dans ces bottines. Déjà en 95, moi, je n'étais rien d'autre qu'un petit journaliste de campagne, puis je subissais ce genre d'attaque. Alors, j'essaie de m'imaginer, si j'avais été nommé à la tête d'un organisme étatique pour enquêter ces ovnis, quel enfer que ça devait être. Et je peux comprendre que Sean Kirkpatrick n'a pas envie de terminer une belle carrière militaire dans la boue des amateurs d'ovnis.
Avec raison, je le comprends. Là. Puis c'est de la pensée magique de se dire, quasiment imaginer le monde avec toute la technologie qu'on a, se s'entraider, puis d'être un peu plus ouvert aux ici trois petits points. Là. Mais ça c'est ma portion de John Lennon de l'émission, d'imaginer un monde de paix avant Noël.
Moi, ouais, c'est ça, mais non, c'est ça. Ces gens-là veulent pas ça. Tu sais. Puis
c'est celui qui a raison. En fait, c'est pas thème mentionné qu'il y a de moins en moins d'amoureux de vérité. Moi, je trouve que c'est la course à qui va avoir raison.
Oui, plus c'est que exactement.
Quelle est la vérité? Ça.
Et je peux t'affirmer que peu importe, là on sait que le nouveau directeur par intérim, ça va être ce Timothy Phillips. Est-ce que Timothy Phillips sera nommé également nouveau directeur permanent de la Roe? On verra. Mais si ce n'est pas lui, puis éventuellement dans 3 mois, on nous annonce un nouveau directeur, je peux t'assurer que ce même directeur, il va suivre les mêmes lignes que Kirkpatrick a mis de l'avant, parce que ça semble aller exactement dans le sens d'une bonne démarche scientifique. Et à quelques reprises, Kirkpatrick, dans ses présentations, il le dit, nous, on n'est pas là pour suivre des mythes, on n'est pas là pour suivre des rêves, on est là pour suivre une démarche scientifique. Et éventuellement, tu comprends, les amateurs d'OVNI, les en croire, eux, ils ont le bon pas dans parade, c'est tous les autres qui sont dans l'erreur. Tu sais, tu regardes, bon, il y a tout le comité de la NASA, qui est un organisme civil, qui dit exactement la même chose. Oui, on a des observations d'OVNI, mais rien qui permet de croire à des extraterrestres. Puis la NASA également se sont penchés sur ces allégations de David Grush, qui disait, oh, on a des soucoupes volantes, puis on fait de la rétro-ingénierie, parce que durant sa présentation, Grush laissait sous-entendre que des organismes de fine pointe dans la technologie aéronautique, incluant la NASA, bénéficiaient de ces ressources-là. Alors que la NASA, on dit, nous aussi, on est au courant des déclarations de David Grush, puis on n'a pas trouvé de programme de rétro-ingénierie, et on n'a pas vu ça.
Okay.
Fait là, encore une fois. T'sais, fait qu'à un moment donné, c'est ça. Fait que tant aussi longtemps que ces gens-là ne diront pas, on est visité par des extraterrestres, puis oui, il y a des programmes de rétro-ingénierie, puis oui, il y a des soucoupes volantes cachées dans la zone 51, mais tant aussi longtemps que ces gens-là n'admettront pas ça aux yeux des amateurs d'OVNI, ben ce sera les ennemis à abattre, et comme ce sont des ennemis à abattre, ben évidemment, ça commence par l'insulte.
Ah oui, parce que c'est le meilleur argument pour s'assurer.
Quand t'as pas d'argument, hein, c'est l'insulte est la première chose que tu trouves à dire. T'sais?
Effectivement. Il nous reste encore un petit 2 minutes, Christian, et j'ai vu sur la fin qu'on a un don considérable pour SETI. C'est bien comme ça qu'on le prononce?
Oui, c'est ça. Le SETI, c'est le programme de Search for... C'est assez amusant, hein, parce que SETI, c'est Search for Extraterrestrial Intelligence. C'est un programme qui a été mis de l'avant dès les années 60. À l'époque, ça s'appelait le projet OSMA. C'est devenu après ça le SETI. La plupart des gens le connaissent, ce programme-là, parce que il a été dépeint dans le film Contact avec Jodie Foster dans les années 90. Tu as peut-être vu ce film, là. Donc, on capte des signaux extraterrestres dans l'espace. C'est le programme SETI, donc, à travers le monde, des scientifiques, des astrophysiciens tournent vers les étoiles, les grands radiotélescopes du monde, dans l'espoir de capter un signal qui démontrerait la présence d'une civilisation extraterrestre lointaine dans l'univers. C'est amusant parce que, alors que les scientifiques espèrent capter un signal radio, les amateurs d'OVNI, eux autres, se disent « Baderez-vous pas avec ça, ils sont déjà ici, ils sont cachés dans une base souterraine.
»
Tu vois un peu, c'est le paradoxe, un peu.
Tellement.
Et là, le programme SETI est financé en partie par des fonds publics, des fonds qui proviennent du département du gouvernement américain.
Okay.
Il y a également des fonds qui lui sont alloués par l'entremise d'organismes proches de la NASA.
Ouais, ça change cette information-là. Tu peux pas dire que le gouvernement achète le silence.
Non, c'est ça. Et, et enfin, il y a des donations qui sont données pour la recherche dans ce domaine-là. Des donations assez conséquentes, hein, parce que là, on vient d'en avoir une de l'ordre de 200 millions de dollars.
My God!
Donc, Hey, écoute, c'est...
Est-ce qu'on connaît c'est... le nom? C'est anonyme?
Non, non, c'est la donation. 200 millions vient d'un certain, un individu qui s'appelle Franklin Antonio. Il est le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Qualcomm, qui développait dans la Silicon Valley, qui développait notamment des microtransistors, des microprocesseurs. Et il est décédé en mai dernier. Il avait 69 ans. Et il était très impliqué dans des donations importantes pour des organismes caritatif qui faisait de la recherche scientifique. Et la fondation Franklin Antonio ont décidé de poursuivre, malgré le décès de cet homme. L'entreprise fonctionne toujours, elle génère des bénéfices. On a décidé de continuer à maintenir les donations à des organismes scientifiques d'ordre caritatif. Et parmi eux se trouve le CETI, qui vient de recevoir ce beau cadeau de 200 millions de dollars qui sera réparti sur plusieurs années, je crois que c'est sur 5 ans, mais qui va permettre de pouvoir continuer et améliorer ce travail d'écoute intergalactique dans l'espoir de capter ce fameux signal qui nous prouverait qu'il y a des civilisations intelligentes dans l'univers. Il faut quand même dire que les dirigeants du programme CETI sont très enthousiastes. Avec ou non cette donation de 200 millions, ils croient que d'ici les 20 prochaines années, les systèmes, l'amélioration de la collecte des données, la façon dont les ordinateurs réussissent maintenant à décanter l'information qui est captée. À l'époque, on pouvait écouter comme un signal à la fois. Après ça, on est passé à 1000 signaux à la fois. Puis aujourd'hui, on est capable d'écouter des 100 000 signaux à la fois.
Wow.
Il y a une amélioration qui était extraordinaire. Et on croit que les responsables du CETI croient que d'ici les 20 prochaines années, on devrait avoir une certitude absolue. On devrait capter ce fameux signal qui permettrait de dire oui, nous ne sommes pas seuls, et non seulement nous ne sommes pas seuls, mais nous vous avons entendu. Mais là, pour l'instant, même si à quelques reprises au cours depuis les années 60, comme je te mentionne, on a capté quelques signaux intéressants, dont un notamment en 1977. C'était de mémoire le 17 août 1977, le lendemain de la mort d'Elvis Presley. Donc tu comprends que
c'est pour ça que c'est leur tenue, c'est comme mon Dieu.
Oui, puis en même temps, c'est passé un peu inaperçu, parce que tu sais, les journaux le 17, inutile de dire
une
que le 17 août 1977, les journaux parlaient de la mort d'Elvis et pas d'un petit signal radio capté là quelque part au radiotélescope de Green Bank. Mais néanmoins, en 1977, on a donc capté ce signal qu'on avait appelé le signal WOW, parce que à l'époque, il faut se rappeler qu'on imprimait les données sur du papier là avec une imprimante à matrice, là, puis ça sortait, les feuilles s'empilaient sur le plancher, là. Puis le matin, l'astrophysicien qui est arrivé au bureau, ben il ramasse les feuilles et là il voit que dans le milieu de la nuit, il y avait eu un signal très important qui avait été détecté pendant à peu près une minute. Donc il a écrit dans la marge de la feuille de papier WOW, W-O-W avec un point d'exclamation, et c'est devenu après le signal WOW. Et encore aujourd'hui, en 2023, ce signal de 1977 reste controversé. Certains disent que c'était peut-être un effet rebond sur un corps céleste qui serait revenu vers la Terre, ou la présence d'une comète, mais d'autres croient qu'il pourrait peut-être s'agir effectivement d'un signal radio extraterrestre. Mais néanmoins, on a tourné à nouveau les radiotélescopes vers cette région de l'espace et on n'a pas entendu à nouveau ce fameux signal WOW. Donc, ça reste ambigu. Mais disons que le programme CETI, les responsables sont très, très, très enthousiastes pour dire qu'au cours des 20 prochaines années, avec l'amélioration des systèmes, on devrait être en mesure de capter ce signal qui ne laissera plus aucun doute sur la présence d'une civilisation extraterrestre.
Dans tout ce que tu as mentionné ce soir, c'est la meilleure nouvelle pour la science.
Oui, absolument.